question de l'ARS qui refuse de donner les données justement médicales. Systématiquement, le refuge est le secret confidentiel, la confidentialité des études, et on retrouve ça dans toutes les études liées aux conditions. Autre chose, comment faire la preuve, alors là, d'un point de vue épidémiologique, sur tout ce qui concerne et systématiquement qui est battu en brèche par les industriels, y compris par l'ARS, etc., la question de la causalité, de la force de l'association statistique, etc., qui ça, ce sont des vecteurs qu'on retrouve systématiquement dans les controverses de ces études-là. Et puis j'ai une question sur comment est-ce que vous avez géré le dissensus sur la mise en cause, au fond, de votre méthodologie, de vos résultats, concrètement, comment on gère tout ça une fois qu'il y a un tel battage médiatique.
Alors, la question de la confidentialité, c'est un argument qui est toujours avancé, mais si on produit des statistiques à partir de cas individuels, on n'a plus la question de la confidentialité, donc ça, l'argument vaut ce qu'il vaut. Je rappelle que nous, quand on a dit qu'on allait faire cette étude, tous les acteurs de l'INVS et de l'ARS nous ont attaqué sur la question de la confidentialité et de l'éthique. Mais en fait, nous, dans notre étude, c'est des choses qu'on a respectées, puisque personne n'a été mis en cause, et on a une grande attention là-dessus, ce qui implique au concret de ne pas diffuser certains résultats, puisque certaines personnes peuvent être identifiées. Sur la question de la causalité, évidemment, comme vous le savez, il n'y a que l'exposition à l'amiante qui crée les mésothéliomes ou les plaques pleurales, et donc ça c'est facile, on sait, exposé à l'amiante, plaques pleurales, mésothéliome, c'est très simple. Les polluants, c'est beaucoup plus compliqué, surtout quand on est dans une zone où il y a une multitude de polluants qui interagissent, qui s'accumulent et qui se mutent entre eux. Donc en fait, on ne peut pas faire la preuve de la causalité, et surtout, la position de Barbara Allen et de beaucoup de gens qui travaillent dans une version un peu critique de l'épidémiologie classique, c'est que on ne peut pas rentrer dans ce débat de la causalité. Néanmoins, on peut observer des territoires et on peut observer des états de santé et voir s'il y a des écarts en fait dans ces états de santé. Après, nous, on a hâte du jour où en fait on pourra mesurer par exemple l'effet cocktail des polluants, mais on n'en est pas encore là, et c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Et justement, le fait de se positionner en refusant ce débat de la causalité, qui est un débat stérile, puisqu'en fait, on n'a pas les moyens scientifiques de prouver la causalité. Donc, observer des territoires différents et voir si les états de santé sont différents, c'est une manière d'observer les choses, de décrire et à partir de là, de problématiser. Alors ensuite, sur la critique de la méthodologie par Santé publique France, alors je dois dire que c'est une expérience assez violente que d'être évaluée, sans qu'on ait rien demandé. Néanmoins, c'est aussi une expérience. Comment dire ? Ça veut dire que l'étude a fait quelque chose, en tout cas, c'est un signe. Et la question, c'était plutôt comment on le gère, comment on le vit. Alors, nous, si vous voulez, sur la méthodologie, comme on le sait, qu'on est très carré, on ne se sent pas mis en cause, puisqu'on a eu une rigueur tout au long du processus de recherche. Donc du coup, si vous voulez, moi je dors bien, puisque je suis droite dans mes bottes d'un point de vue scientifique, et donc je m'en veux pas de ce point de vue-là. Comme je vous l'ai dit, je m'en suis voulu sur le fait que ça puisse potentiellement desservir les habitants qui tenaient à l'étude. Après, ce qui est intéressant de voir, c'est que bon, moi j'ai pas encore fait l'analyse de tout ce qui est sorti dans la presse, etc. On n'a pas eu le temps de le faire en fait. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que dans cette zone, beaucoup de gens ont une analyse critique des sciences. Pas tous, hein, mais certains, en tout cas les experts locaux qui nous ont beaucoup appuyés dans l'étude. Et donc ils ont une habitude en fait d'être eux-mêmes de critiquer les études et que les études soient critiquées. Donc en fait, eux, le fait qu'on soit critiqués, ça ne les a pas vraiment étonnés, et ils nous ont soutenus en fait dans cette démarche-là. Et cette question, par exemple, de la santé déclarée sur laquelle je suis venue, c'est vrai que Santé publique France, quand ils ont fait leur rapport, ils ont évidemment parlé de santé ressentie par les habitants, ce qui est une violence extrême, hein, puisque quand même on a demandé aux gens, est-ce qu'un médecin vous a déclaré que vous aviez un cancer, etc. Et il peut y avoir quelques mythomanes dans l'échantillon. Enfin bon, sur les 816 personnes, je pense pas que les gens qui déclarent un cancer mentent. Alors en tant que chercheur, il y a des épreuves qui sont un peu violentes dans ce contexte. Par exemple, le jour de la diffusion des résultats de l'évaluation que nous n'avions pas eu, nous n'étions pas invités en sous-préfecture, alors que tout le monde était invité, les chercheurs locaux, tous les élus, tous les administratifs, etc. Donc nous, on a dû s'inviter, enfin, à écrire au préfet pour lui demander de nous inviter, puisque ça nous paraissait quand même la moindre des choses. On n'avait évidemment pas de droit de réponse, et on a eu le rapport de Santé publique France le vendredi à midi pour une réunion qui était prévue le mardi matin. Donc oui, en termes... c'est une petite expérience, on va dire, scientifique éprouvante. Néanmoins, s'inviter à cette réunion, ça nous a quand même permis aussi de replacer le débat sur la santé déclarée, parce que en fait, ça va vite, hein. On dit oui, c'est des états de santé ressentis, après la presse reprend. Donc par exemple, c'est pour ça qu'on a insisté à être là, sur l'état de santé ressenti, et donc qui dit ressenti dit que ça n'existe plus, puisque c'est pas objectif et c'est juste ressenti. Donc oui, ça exige en fait à certains moments de se positionner et voire de se forcer à aller dans des arènes où on n'est pas les bienvenus.
Oui, du coup, ben, merci beaucoup pour ta présentation. On parlait un petit peu là sur le chemin avant d'arriver. Mais moi, je confirme qu'en fait, l'étude a eu un retentissement sur FOSS, en parallèle de deux autres études qui étaient menées. Et si les associations, s'il y a des recours aujourd'hui sur mise en danger de la vie d'autrui, c'est aussi qu'il y a eu toute cette bataille de l'expertise. Alors, c'est effectivement, enfin, moi, j'ai pas du tout travaillé dans ces conditions-là, donc je mesure ce que ça représente pour un chercheur ou une chercheuse de travailler en étant au cœur d'une bataille de l'expertise, mais c'est vraiment ce qui est en jeu sur ce territoire. Et pour moi, du coup, Fossepsial, moi j'avais assisté à la première réunion, comme je te le disais, la présentation à Marseille du projet. Les habitants, les associations ne savaient pas trop ce qu'ils allaient pouvoir en faire, comment ils allaient être traités là-dedans. Et puis finalement, ils s'en sont saisis. Donc ça a complètement fonctionné de ce point de vue-là. Et ça a servi, en tout cas, pour leurs intérêts. Et ils obtiennent aujourd'hui, il y a des résultats, en tout cas, très clairs sur les registres, etc. Donc c'est à resituer dans le processus. Mais ça a été très efficace. Ça c'est le premier point. Et le deuxième, c'est de dire qu'effectivement, sur ce territoire, comme je le disais tout à l'heure ou ce matin, c'est le rapport de force et les rapports de domination sont tellement puissants et historiques que ce qui nous paraît, on arrive, ce qui nous paraît peut-être un peu brutal, violent, les habitants ont une habitude, ou les élus, une habitude très forte de ces confrontations. Tu n'as pas parlé, par exemple, des échanges avec le préfet qui expliquait que les problèmes de maladie étaient liés au fait que les ouvriers buvaient et fumaient, c'était une autorité publique. Donc,
des
barbecues. Donc en fait, il y a toute une. Tout ça fait partie des échanges et de la violence symbolique qui s'exerce aussi. Je trouve qu'ils ont une endurance, les habitants en tout cas de ce territoire, une endurance à toute une série de violences sur leur corps, mais aussi sur leur par les mots, la violence symbolique. Et vous avez été pris partie prenante de de ces échanges, mais c'est quelque chose qui les déstabilise peut-être moins que nous chercheurs arrivant sur ce type de terrain.
C'est vrai qu'il y a une certaine endurance à la violence et une certaine habitude du conflit et de la conflictualité. En 2015, si la France a été un peu bloquée, c'est grâce ou à cause, je ne montrerai pas, mais quand même des militants de la zone industrielle de Fos qui a bloqué les raffineries. C'est quand même pas rien. Donc oui, c'est vrai qu'il y a une certaine endurance à la violence. aux mots et aussi au travail. Enfin, quand les personnes qui travaillent dans les industries décrivent ce qu'elles vivent au quotidien, c'est vrai que moi, en fait, d'un point de vue chercheur, ce qui m'a le plus heurté, on va dire, c'est cette description. On sait que le capitalisme est brutal, mais là, c'est plus de la brutalité, c'est plus de la violence absolument innommable, en fait, ce qui est vécu dans les usines. Donc oui, je suis d'accord avec toi sur cette histoire de cette violence ordinaire, en fait. En fait, l'idée, c'était de leur montrer les résultats de l'étude que je vous ai présentée et de les faire travailler en atelier, comme on a fait avec les habitants, sur ces données. Et l'un des enjeux, c'était les faire parler sur ce tabou qui est l'infertilité masculine dans les usines. Et en fait, c'est très bien passé. On a réussi à discuter là-dessus. Moi, j'étais un peu dans des petits souliers, mais en fait, non, ça a été. Et l'autre objectif, c'était de aussi les faire parler sur... parce que nous, il y a tout, par exemple, sur les cancers. Bon, je ne vous ai pas fait le détail des cancers qu'on répertorie et tout, mais en gros, on répertorie plutôt dans notre étude les cancers à bon pronostic vital. On ne répertorie pas les cancers où on meurt vite, puisque on reporte et que quand on va mourir d'un cancer, on n'a pas forcément envie de répondre à une étude de santé. Et eux, les travailleurs, ils ont une espèce d'expérience et d'expertise de ces cancers ou de ces maladies qui sont invisibles ou invisibilisées. Et donc, je les ai fait travailler sur à la fois les process utilisés, les polluants et les types de maladies qu'ils voyaient dans leur pratique professionnelle. Sachant que souvent, les maladies ne se déclarent pas pendant que les personnes travaillent, mais plutôt à la retraite. Et donc, moi, j'ai essayé de faire émerger, en fait, toutes ces pistes, en fait. C'est plutôt des pistes de recherche, mais sur les maladies invisibles, parce qu'elles ne sont pas reconnues au tableau professionnel, et parce qu'aussi, les gens ne sont plus en service quand ils en meurent, pour voir sur quoi on pourrait travailler. Un des résultats, c'était par exemple de travailler sur les cancers du pancréas, qui sont des cancers assez drastiques, hein, qui vont très très vite, et où dans les process industriels, notamment les expositions au benzène, mais aux particules, aux dioxines, etc., pourraient produire ça. Donc l'idée, c'était vraiment de les faire travailler sur exposition professionnelle et maladie, voire maladie invisible. Et ça s'est très bien passé.
Alors, moi, j'avais en fait des remarques et des questions. La remarque, première remarque, c'est par rapport à ce qui s'est passé de la réception de cette étude par Santé publique France. Il y a des questions qui peuvent être explicables localement, mais aussi il y a un contexte général des sciences aujourd'hui où il y a un combat quand même entre justement un combat qui est mené par exemple par Gérald Bronner, l'Académie de médecine, etc., qui défendent une science objectiviste, rationnelle, etc., qui irait à l'encontre d'une science qui serait justement dévoyé par les sciences participatives, citoyennes, etc., etc. Donc il y a un combat académique qui se joue. La deuxième remarque, qui est dans le prolongement de la première, c'est finalement que ce combat-là, il existe depuis la naissance des sciences humaines, et en particulier de la sociologie, hein, puisque quand même la sociologie s'est construite contre cette approche, en essayant justement de... contre et avec les sciences dures, Le premier travail de Durkheim, ça a été justement de montrer qu'on pouvait travailler sur les gens comme on pouvait travailler sur les choses. Donc ce travail-là, ce rapport de force, il continue. Et moi, ce qui m'a... Alors, le sujet de la journée, c'était la fabrique des vulnérabilités à l'heure des transitions. Je me disais, bon, mais alors quel rôle joue la dimension de durabilité, de transition, dans des contextes aussi durs? Et c'est marrant parce que le dernier dessin fait penser à la trilogie habituelle du développement durable. Absolument, avec les trois piliers, etc. Donc, et en fait, si on réfléchit un petit peu, il y a la dimension économique, il y a la dimension sociale, et en haut, la citoyenne, on pourrait peut-être imaginer une dimension plus sensible dans la citoyenneté telle que vous l'évoquez dans votre étude. Et donc, il y aurait cet espace de négociation qui est habituellement pris par la durabilité et là qui est pris par l'étude scientifique. Alors, c'est peut-être une transposition un peu hasardeuse, mais il y a quand même l'idée là dans cette présentation que finalement cet espace de négociation serait à l'équilibre, chercherait un équilibre entre les différentes forces, disons, qui sont autour de la table. Alors peut-être que... Est-ce que c'est un vœu pieux ? Ça c'est... Voilà, peut-être... Mais alors sinon, donc, par rapport à... Pour revenir à cette question de la transition, plus sérieusement, ce matin, pour parler de cette même zone, l'intervenante parlait de territoire servant, avec l'idée que ces territoires durs, industriels, seraient finalement les coulisses de la ville durable, propre, etc., qui existe sur le reste du territoire. J'aurais aimé savoir si cette question du mal nécessaire vis-à-vis du reste du territoire était posée en ces termes, ou est-ce qu'il y avait, alors de la part du préfet ou de la part d'autres acteurs, en gros, donc d'un mal nécessaire pour finalement la préservation du bien commun. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est par rapport au rôle de l'État. C'est-à-dire que ce matin, finalement, c'était plutôt l'État qui était garant d'un équilibre entre, justement, rapport de force et, poubelle de Marseille et territoire servant, donc bien commun. J'aurais aimé savoir quel rôle, finalement, était dévolu à l'État dans ce triptyque vécu par les différents acteurs, donc pas uniquement par les chercheurs, mais aussi par les différents acteurs. Voilà, toujours avec cette idée que, finalement, quand on parle de transition, quand on parle de développement durable, etc., il y a toujours une dimension morale qui est très forte. Et donc, est-ce qu'on retrouve des choses de ce type aussi dans les débats qui ont eu lieu ?
Alors, je vais commencer par le rôle de l'État, peut-être. C'est plus simple pour répondre, moi, là. Alors, clairement, l'État, on dirait que c'est ma perspective à moi, et je dirais la perspective que j'entends de la part des habitants, des militants associatifs, et de ce qui transparaît dans les médias au niveau local, on a commencé à analyser, c'est toujours l'État qui est mis en cause, en tout cas au niveau des médias locaux. Jamais les industriels. Donc ça, déjà, c'est une première information, c'est-à-dire que la pollution existe, elle est en soi. C'est un fait incontestable, et donc c'est l'État qui est en tout cas mis en cause à l'échelle locale par rapport à cette situation. L'État, il est sacrément mis en cause par les habitants et les associations pour plusieurs raisons, parce que normalement, il est quand même garant de ce que vous disiez comme un équilibre ou l'intérêt collectif, mais en fait, quelque part, l'État, il doit faire le grand écart, puisqu'il doit préserver les intérêts économiques et en même temps préserver les enjeux environnementaux. Ce qui, dans la manière de produire dans le contexte industriel, est impossible. C'est-à-dire que, vous ne savez peut-être pas, mais les habitants, en fait, ils incriminent beaucoup l'État, puisque la manière de contrôler les industries est assez surréaliste, puisque c'est les industries qui, par exemple, auto-déclarent leur niveau de pollution. La DREAL, peut-être qu'elle vient une fois par an dans les grandes usines et elle prévient. Les prélèvements, ils sont jamais faits les week-ends, les soirées, etc., au moment de dégazage. Donc les habitants, pour eux, l'État, il n'est pas du tout garant de cet intérêt collectif. Il l'est du point de vue économique, mais il ne l'est pas du point de vue environnemental et sanitaire. Alors jusqu'à il y a peut-être 20 ans, je pense que ça ne posait pas trop de problèmes. Mais je pense que la mise en perspective avec l'incinérateur qui a été un déclic et le fait que les situations au travail se sont beaucoup détériorées, ça a fait qu'en fait, on est à même de plus de mettre en cause l'État qu'il y a 15-20 ans, je pense. J'étais pas à 15-20 ans, mais j'ai un peu cette sensation. C'est-à-dire que avant, si l'État il contrôlait pas trop, si les usines elles étaient pas trop respectueuses des normes et tout, finalement, peut-être que c'était pas si grave que ça parce qu'on vivait bien quand même au travail et économiquement. De plus en plus, c'est moins le cas. Vous avez la sous-traitance qui vient, les salaires qui... Voilà. Donc finalement, l'État, il est en fait dans cet équilibre un peu intenable hein, dans la zone et il est perçu comme l'État, c'est l'ARS. L'ARS, elle est quand même un peu détestée. L'État, c'est le préfet qui dit pas toujours tout ou ne contrôle pas toujours très bien. Donc là, on a vu que ArcelorMittal, ça avait bougé, ils se sont pris 3 mises en demeure, mais ça faisait 15 ans que le syndicaliste du CHSCT militait pour ça. Voilà, donc l'État n'est pas très très bien vu par les militants associatifs et les habitants, on va dire... sensible à ces questions à cause de cette position intenable qu'il a de défendre les intérêts économiques et les intérêts environnementaux. Voilà, ça c'était la question sur l'État. J'ai répondu, c'est bon. Alors, la question du mal nécessaire. Alors, pour les habitants, évidemment, enfin, c'est accepté même que... on produit, on pollue, on est un peu sacrifié, mais on accepte aussi, on a longtemps accepté d'être sacrifié pour des raisons égoïstes.
Oui, ce que je voulais dire par mal nécessaire, c'est ok, ça, on est bien d'accord sur le mal nécessaire, c'est-à-dire pour avoir de l'emploi, il faut, etc., etc. Mais là, l'idée, c'était plutôt d'avoir une zone qui serait une zone productive, qui serait le mal nécessaire pour que le reste du territoire.
France. Voilà, oui.
Ah, ok, pardon.
Oui. Oui, ben ça, d'un point de vue émique, ça se dit et ça se raconte beaucoup que c'est le territoire un peu sacrifié pour la France. D'ailleurs, il y a beaucoup de discussions à ce sujet, parce que comme on était dans un environnement naturel assez exceptionnel, avec des espèces endémiques, etc., avec la Camargue, il y a eu, au moment de l'installation de la zone industrielle, un grand débat, est-ce qu'on fait de l'industrie ou est-ce qu'on fait du tourisme ? Et c'est l'industrie qui a été... choisi. Et donc oui, il y a un ensemble de discours du point de vue émique des habitants, des associations, etc., sur le fait qu'on est le mal nécessaire pour la France, assez assumé, hein, assez directif, enfin, dit de cette manière en tout cas. Alors sur la question du développement durable, et de la vulnérabilité, de la transition, etc., en fait, du point de vue des travailleurs et notamment de la CGT au niveau local, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a quelques années, très récemment, dans certaines usines, il y a beaucoup de postes qui ont été supprimés au nom de l'environnement. C'est-à-dire qu'on a supprimé des emplois parce que, soi-disant, les usines polluaient trop. Et donc, en fait, la dichotomie travailleur anti-écolo, les travailleurs contre les écolos qui a eu lieu pour longtemps dans la zone, elle commence à s'estomper puisque en fait l'environnement a été un motif de sacrifice des emplois. Et alors là, si vous voulez, c'est la goutte qui... Elle fait... Enfin, je sais pas si... C'est plus que la goutte qui fait déborder le vase. C'est-à-dire que au nom d'un argument écologique, on sacrifie des emplois, mais les travailleurs, ils sont pas dupes. Ils savent très bien que, si vous voulez, c'est un argument un peu factice, puisque les emplois, ils auraient été, de toute façon, sacrifiés. Et donc, l'antagonisme écologiste, syndicalistes ou les écolos versus les travailleurs, il tend à s'estomper, en fait. Et on observe actuellement plutôt des alliances de ce point de vue-là. Et j'ai trouvé, moi, que c'était assez intéressant, puisque ça a longtemps été très fort, en fait, travailleurs écolos. Alors, sur Santé publique France, que vous dire Effectivement, en fait, là, j'ai pas fait cette présentation, mais des fois, je fais une présentation sur tous les enjeux épidémiologiques et la manière de déconstruire l'épidémiologie ou de la construire, etc. Et c'est vrai qu'en atelier, on travaille là-dessus aussi, puisque plutôt avec les travailleurs de la CGT, où ils étaient friands, en fait, de comprendre ces rapports de force et de domination dans l'univers scientifique. Donc effectivement, c'est pas une question nouvelle et ça a toujours été le cas, la science objectiviste et objective versus l'essence sociale, entre guillemets. On se situe toujours dans ce débat académique. Néanmoins, je crois quand même que Santé publique France, on va dire, s'ouvre, puisque quand même le rapport, il n'est pas forcément que négatif, notamment sur les méthodologies participatives. Le représentant du service environnement, quand il est venu présenter ses résultats au sous-préfet, il a quand même avoué devant tout le monde qu'il avait été bousculé par notre rapport. Donc je pense que quand même l'apport des sciences sociales et des méthodologies participatives, ça commence à faire un peu sens. Et j'ai été moi-même invitée par Santé publique France pour présenter les méthodologies participatives auprès des épidémiologistes de Santé publique France. Donc quand même, il y a une petite ouverture qui est plutôt constructive et positive, voilà.